Interview.
1 interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois, comme régulièrement, l'équipe du musée, Jacques Planchon, conservateur, Anaël Cagna. Et aujourd'hui, pour annoncer la soirée conte qui aura lieu au mois de juillet, Ghislain Papin, conteur. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Alors cette soirée aura lieu le 21 juillet 2016 à 20h30 au musée. De quoi s'agit-il ?
C'est une soirée conte. Au musée, on a décidé de travailler avec Ghislain qui travaille donc dans une structure qui s'appelle Le Coq qui disserte, c'est ça ?
C'est cela.
Et du coup, Ghislain et Jacques s'étaient déjà rencontrés il y a quelque temps, avaient bien aimé travailler ensemble. Et du coup, ont décidé de construire une soirée conte pour le musée avec des légendes locales. Et donc, l'idée, c'est que nous, on raconte l'histoire toute l'année au musée, l'histoire locale, et que cette fois-ci, on travaille avec quelqu'un qui va pouvoir nous raconter des légendes locales. Donc, des histoires plutôt que l'histoire avec un grand H.
Ça veut dire qu'il y a des choses à prendre avec des pincettes au niveau du côté véridique ?
Certainement, oui. Mais en fait, les légendes ont toujours un petit fond de vérité. Le tout, c'est d'arriver à trouver lequel, et ça, c'est pas forcément évident. Et puis, les légendes, c'est aussi un petit peu l'âme d'un pays. C'est-à-dire qu'il y a la grande histoire, d'accord, et puis il y a les petites histoires, celles qu'on raconte, et qui font partie aussi de la couleur locale. Donc, c'est important d'avoir un petit peu les deux.
Je vais juste rajouter des petites choses par rapport à ce que mes copains du jour ont bien voulu dire sur ces légendes. Qui donne effectivement une image du Diwa et des gens du Diwa et des gens d'une certaine époque. Et moi, je me suis aperçu en plongeant dans ces légendes, dans ces histoires, qu'il y avait un sacré humour. C'est assez fou et un humour de terroir, j'ai envie de dire. Et ce qui va arriver aux oreilles des spectateurs ce soir-là, ce seront ces petites notes d'humour bien particulières, entre autres choses. Et puis après, effectivement, une légende, elle s'appuie sur une réalité. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que la réalité, c'est vraiment la réalité dont il parle ? C'est déjà rien que la réalité, elle apparaît comme une légende. Alors en plus, une légende légendée, c'est bien. Ça donne quelque chose de très intéressant.
Comment est-ce que tu travailles, Ghislain, toi, pour récolter ces histoires et les mettre en compte et les collecter et les mettre en scène ?
Ben, la première des choses, c'est ça. On va parler de ce travail-là particulièrement. C'est une rencontre au départ avec des historiens, avec l'histoire, avec un grand H, des historiens qui me passionnent. Moi, chaque fois que je suis allé à une conférence de Jacques, je suis comme ça, les yeux grands ouverts et les oreilles aussi grandes ouvertes. Mais ça se voit pas trop, les oreilles grandes ouvertes, donc c'est pas pour ça qu'on n'en parle pas. Et je me dis chaque fois, oui, mais comment est-ce que les gens, ils ont pu vivre ça ? Et alors à ce moment-là, sur les propositions de Jacques, je suis allé me plonger dans les histoires, dans les légendes, et je les lis. Et puis aussi, tout en les lisant, je me dis, mais tiens, il y a un tel qui m'avait dit ça. Alors, sur telle légende existante, il y a une autre personne qui m'avait évoqué cela. Et du coup, tout ça, ça vient se connecter, ça vient se mélanger. Et du coup, après, j'en fais ma propre interprétation. Donc, les légendes que les personnes vont entendre, les histoires que les personnes vont entendre, les histoires locales, ça va être tout ça, ça va être ce remixage, si je peux me permettre ce mot, de tout ce que j'ai pu lire, entendre, et de la part des historiens et de la part aussi des locaux. Voilà.
Tu dois avoir les oreilles grandes ouvertes, comme tu le dis, même si ça ne se voit pas régulièrement dans tes échanges avec les gens partout où tu vas,
oui,
pour essayer de glaner des détails, des choses.
Oui, exactement. Ouais. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est par exemple Luc en Diwa, j'habite juste à côté et je suis monté très souvent sur le pic de Luc Et il y a une des histoires, je ne vais pas la dévoiler, mais qui va en parler de ce pic de Luc. Mais on ne va jamais en parler comme le pic de Luc. Et je me rends compte aussi que les gens que j'ai rencontrés, ils ne savent même pas des fois que ça s'appelle le pic de Luc, alors qu'ils y montent, par exemple, je vais dire n'importe quoi, tous les mois. Et ils ne savent même pas qu'en haut, il y a des ruines. Pour eux, les ruines, ce n'est pas des ruines. C'est la roche qui est comme ça, qui est transformée. Et puis du coup, la roche, elle est comme ça, mais c'est bizarre, cette roche, elle ressemble à un mur. Voilà, donc il transforme déjà ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il ne voit pas un mur d'une ancienne bâtisse, il voit déjà un rocher qui a l'aspect d'un mur. Voilà. Et donc c'est tout transformé comme ça, et sans plus de questions. Mais après, on voit très bien comment l'imaginaire peut se développer. Voilà.
Les gens sont déjà très familiers de ces légendes, ou c'est des choses qu'on découvre lors des soirées contes ?
Alors là, je saurais pas te dire, mais chaque fois que j'évoque les légendes, sauf une très très connue, la légende de Justine, les autres non, c'est j'ai pas entendu forcément d'histoires vraiment comme ça au déboté dans la rue ou en rencontrant des amis conteurs, c'est pas vraiment ce qui s'exprime. C'est un peu comme je dis toujours par rapport au conteur, les gens sont toujours très intéressés par l'exotisme dans les histoires. Donc les histoires qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Inde, les gens s'y intéressent. Mais les histoires qui sont là, locales, un peu comme si on avait une timidité à écouter ou à raconter ces histoires locales. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que de les avoir lus, de les avoir écoutés, je vais avoir grand plaisir à les raconter. Et je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'humour, et cette forme d'humour, elle me va bien. Des fois, c'est assez difficile, parce que c'est du lourd, c'est bien ancré, je vais même dire, des fois, c'est même gras. Mais ça fait rien. C'est aussi, c'est remonter. Je me tourne vers Jacques et elle. C'est aussi le pays qui avait une certaine rudesse, et puis il y avait un travail qui était rude, le travail de la terre. Et à un moment donné, les gens ils se lâchaient, quoi. Et puis on sait très bien aussi qu'en se promenant dans nos forêts, dans ces montagnes qui sont énormes quand on les regarde du pied. Il y a toutes sortes de choses qui pouvaient passer dans l'imaginaire des gens, et des fois, il valait mieux en rire. Donc, voilà, il y a un certain humour qui est né.
Dans les légendes, ce qu'on aime, c'est les détails un peu épiques ou fantastiques. Est-ce que là, ces histoires-là, elles en sont dotées ?
Oui. Là, je réponds que oui. Voilà, mais elles en sont dotées. Et c'est là où je dis que j'ai l'impression que, dès le départ, il y a des choses qui se sont transformées. Voilà.
Alors, de toute façon, pour une légende, l'intérêt, c'est que c'est de l'histoire orale. C'est-à-dire que la légende va se transformer chaque fois qu'un conteur la réinterprète. Puisque le conteur va y mettre des choses personnelles, va se servir de sa propre expérience, va se servir aussi des histoires qu'il a entendues, enfin, ce que vient de dire Ghislain. Et c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que même sur les histoires qu'on connaît, la belle Justine en effet, a priori tout le monde l'a entendue sous une version ou une autre, incomplète ou complète, mais celle que le conteur va raconter, c'est la sienne. Et même si la trame reste la même, forcément, ça reste extrêmement intéressant d'écouter la façon dont le conteur interprète son histoire. Donc de toute façon, même quand on connaît une histoire, ça vaut le coup d'aller l'entendre à nouveau, parce que c'est jamais la même.
Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne version d'un conte ou d'une légende, alors ?
Non, il y a la version racontée ce jour-là par ce conteur-là. Et le lendemain, le même conteur pourra donner une version légèrement différente. Et puis si c'est un autre conteur, ça sera une version encore différente. Et puis, et ainsi de suite. Donc ça se modifie à volonté, même si la trame reste toujours la même. C'est un peu comme quand on fait une ressucée d'un film. Après tout, il y a des films qui sont connus à 3, 4, 5, 6 versions, parce qu'on les refait régulièrement, parce que l'histoire plaît, et donc on va le réinterpréter différemment et l'actualiser.
Juste, Jacques, il vient de parler de l'histoire de la belle Justine. Moi, j'avais juste parlé de l'histoire de Justine. On voit déjà les yeux de Jacques par rapport à Justine. Voilà. Et c'est ça l'interprétation. Voilà. Et puis la belle Justine, on pourra en reparler, Jacques. On pourra en reparler avec le public le soir des contes.
C'est peut-être aussi une forme d'humour.
Oui. Voilà.
Moi, ce qui me semble important dans notre proposition de contes aussi cet été, c'est qu'on est dans un musée, donc c'est un lieu chargé d'histoire dont le but est de transmettre du patrimoine, de montrer des objets archéologiques, d'expliquer l'histoire commune. Et tout ça, c'était fait aussi avant, quand je dis avant, c'est dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. On s'intéressait déjà un peu à notre passé et on se racontait des histoires. Aujourd'hui, on lit des livres, on regarde des films, on écoute des émissions de radio, on écoute de la musique. À l'époque, tout ça, alors à part les films évidemment, c'était fait, mais c'était fait avec des acteurs de théâtre itinérants, avec des conteurs itinérants, des gens qui se baladaient et qui proposaient comme ça de la culture en fait. Qui proposait des histoires, qui proposait du théâtre, qui proposait de la musique. Et pour moi, c'est une expérience un peu particulière que de remettre au musée, du coup, dans ce cadre historique, un conteur qui va donc raconter des histoires locales comme ça pouvait être fait à l'époque, mais aujourd'hui. Voir comment les gens peuvent réagir à l'ère des tablettes et autres 4G et autres téléphones et Internet dans l'immédiateté des choses. Là, on va avoir quelqu'un qui va nous raconter des choses sur notre territoire, qui va nous raconter des choses qui vont pouvoir nous faire rêver, les enfants comme les grands, parce qu'on raconte des histoires aux enfants, mais moi j'adore qu'on me raconte des histoires et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui adorent qu'on leur raconte des histoires. Et avec vraiment quelqu'un en face de nous, qui va nous raconter la chose. On a ça au théâtre, mais là, je pense qu'il va y avoir une intimité aussi toute particulière de par le lieu, parce qu'on n'est pas dans une salle de spectacle, on est dans un musée avec un jardin, avec une proximité déjà au niveau de... une proximité, je vais dire géographique, mais...
Physique.
Physique, voilà. Et puis avec une ambiance particulière, voilà. Donc, on est sur, pour moi, le fait de perpétuer aussi une espèce de tradition dans le fait de proposer cet événement.
Là, je vais utiliser un mot que j'aime beaucoup utiliser. On l'a dit, du coup, c'est pas archéo-compatible. Alors, du coup, ces histoires, il y a des détails qui font pas partie forcément de la réalité, en tout cas de la vérité. Mais est-ce que vous les utilisez, vous, dans vos visites ou au musée même ?
Toutes les histoires, on les connaît pas encore, puisque on a travaillé avec Ghislain, on lui a exprimé nos envies, nos souhaits, on lui a donné quelques histoires qui, pour nous, nous faisaient rêver et dont on avait certaines traces au musée dans des livres, puisqu'on a un fonds documentaire depuis l'année dernière au musée, donc on a commencé à regarder un peu ce qu'on avait vraiment au niveau des contes, etc. Et on lui a donné des pistes, il y a pas mal dans les chroniques vidéoises des gens qui ont écrit sur les contes et légendes locaux aussi, parce que c'est quelque chose qui est nourri de toute façon par les gens au fil du temps. Mais moi, je ne connais pas encore exactement le programme de la soirée de jeudi prochain.
Oui, ça c'est la surprise. Et c'est leur surprise à eux. Parce que dans le travail, moi je vois toujours une part de ludique et une part de merveilleux aussi, comme dans les histoires. Et notamment dans le merveilleux de ces histoires d'un soir, on va faire revenir dans le Diwa des choses qui ont disparu, des êtres qui ont disparu. Et ça, c'est ce que j'apprécie fortement dans cette réalisation à l'intérieur d'un musée. Parce qu'on va faire revivre des personnes, des personnages, et même des êtres de notre nature qui ont disparu.
Cette soirée, elle est ouverte à tous. Elle est gratuite, comme d'habitude, pour les événements du musée.
Oui, tout à fait. Alors, comme d'habitude, on rappelle que nos intervenants sont payés et que c'est donc la municipalité de Die qui, par son financement, offre ces événements au public. Et c'est pour ça qu'on garde une entrée libre pour que tout le monde puisse venir, qu'il n'y ait pas de frein financier. Et c'est ouvert à tous, j'ai envie de dire, de 2 à 222 ans. Mais qu'est-ce que tu en penses, Ghislain? Les enfants, les adultes, les personnes âgées?
Ouais, moi j'ai un grand sourire, mais vous ne le voyez pas à la radio. Parce que, oui, deux, bon, jusqu'à loin, loin, loin. Mais 2 ans, il y a des moments où je me disais, waouh, comment je vais raconter ça à un petit de 2 ans ou de 4 ans? Et puis on va y arriver, hein, parce qu'il y a quand même des choses, comme je le disais, il y a un humour qui est, des histoires aussi qui sont fortes, et puis il y a un humour qui est,
est-ce que
costaud.
Est-ce que c'est grivois?
Oui, oui et non. Non, oui et non.
Ah. A priori, ça peut.
Ça peut.
Ou pas.
Voilà. Et puis, ouais, non, mais il y a des choses pour les, où les petits vont s'y retrouver. Hein, voilà. Il y a des... Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le burlesque à la quitone. Et dans des histoires, j'ai trouvé du burlesque à la quitone. Avec une accumulation d'effets qui font qu'à un moment donné, on va rire. Voilà. Et même si on a déjà dans l'idée ce qui va se passer. Mais il y a une accumulation d'effets qui fait qu'on va rire. Voilà. Et c'est ce que j'aime bien, moi, dans les histoires. C'est que j'aime bien prendre à partie le public et le mettre dans une réflexion où ensemble, on va arriver quelque part.
Voilà. Là, ça me donne l'envie de poser une question plus technique. C'est-à-dire que tu travailles sur des légendes existantes avec des détails, tu les réécris.
Oui.
Donc, finalement, l'accumulation de détails qui va t'amener à du burlesque, etc., c'est toi qui crée ça.
Oui, mais c'est moi, mais c'est parce que ça m'a été amené par les personnes qui me transmettent tout ça. Aussi bien de façon orale, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, que de façon écrite, comme le disait Anaël. Voilà, c'est à l'intérieur de ces textes, il faut voir ce qui est caché derrière. Moi, quand j'écris quelque chose, que ce soit un album, un roman ou autre chose, ou une chronique, je glisse des sous-entendus, des petites choses comme ça qui font qu'à un moment donné, ça déclenche les sourires et ça déclenche, tiens, je vais reprendre ton mot, une proximité avec le lecteur ou avec le spectateur. Et donc, moi, mon travail, c'est de déceler tout ça. C'est comme quand je travaille avec des acteurs ou avec des conteurs en formation ou en création. À un moment donné, j'essaie de déceler quelle est sa part d'humour à cet acteur ou à ce conteur et comment je vais faire en sorte que ça soit révélé et que ce soit mis en effet pour que ça soit le plus probant possible.
Voilà. En toute façon, c'est général sur les légendes ou les contes, c'est-à-dire que c'est des histoires qui parlent de la vie. C'est aussi des histoires vivantes. Alors l'intérêt là, c'est que justement, on mélange ces légendes anciennes qui nous parlent de la vie dans l'ancien temps, et puis le conteur qui lui est vivant, là je certifie, il est bien vivant, et qui nous parle aussi de notre vie à nous. Donc il y a ce mélange qui rend les choses très intéressantes parce que ça réactualise, même si on raconte quand même des histoires anciennes, on les réactualise simplement parce que le conteur lui-même est vivant, il a sa propre expérience, il a sa propre vie derrière. Et puis après, il y a ces petits sous-entendus qui, en général, sont en rapport avec nos vies à nous et pas forcément avec leur vie à eux d'avant. Ça rend les choses extrêmement vivantes. Et puis, il y a... Alors, je ne vais pas refaire la psychanalyse du conte parce que ce n'est pas du tout l'enjeu. Et puis là, c'est plutôt une soirée festive et pas du tout une soirée sérieuse. Mais toutes les histoires, même quand il n'y a pas de morale, elles racontent quelque chose. Il y a toujours une leçon à en prendre. Alors, la leçon, ce n'est pas forcément pénible, mais c'est quand même quelque chose qui nous parle de nous, quoi qu'il se passe. Donc, ça rend, là encore, les choses extrêmement intéressantes.
La soirée conte au musée, il était une fois dans le Diwa avec le coq qui disserte, donc Ghislain. Ça sera donc jeudi 21 juillet à 20h30. Ça dure environ 1h15. Vous pouvez venir avec les enfants, les tout-petits, avec les grands-parents, les plus vieux. Et ça sera une entrée libre, évidemment. Venez écouter les contes locaux au musée de Didier du Diwa.
Voilà, Anaël a tout dit. Je vous remercie beaucoup, Jacques Planchon, Ghislain Papin et Anaël Cagna, d'être venus dans le studio de RDIWA pour parler de tout ça.
Merci, Radio Diwa.
Merci.
Restez bien à l'écoute de nos ondes. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur le www.rdiwa.fr. Salut à tous.
Par ici, la terre est très dure,
disait l'Arthur.
Même les corbeaux volent à l'envers pour ne point voir la misère.
Et ta sœur, elle volait à l'endroit,
répondit le prêtre.
ça doit bien être droit, c'est marqué dans le dictionnaire. Un coup je lance ma casquette, un coup je vais la rechercher. L'achat le dédé, y a les sous qui rient quand ils pètent, et ceux que l'oignon fait pleurer. Trois vieilles branches, toutes tordues, sur un très vieux banc, tout moussu, papotait pour se faire du vent. Il n'y a point d'amour qui dure, disait l'Arthur. Ça vous met le cœur en calanche, l'amour c'est pas toujours dimanche. Ton austère, remémore-toi dans son joufflu. Tu te rappelles plus. L'amour c'est un peu la galère, mais il y fait bon ramer. Lâche le dédé. L'amour c'est juste un poil amer, c'est du bonbon acidulé. Oh oui. Trois vieux bandits encore poilus, entre le verre et le chenu se racontaient le French cancan. J'aurai mon galure. Tu dors comme tu fais ta litière,
répondit le prospère.
Plutôt que boulotter ta visière, bah, t'as qu'à manger du camembert. C'est pas que je m'ennuie, mais je me fais chier, disait le dédé. Oh yeah, vous me gonflez, je m'en vais rentrer pour souper. Allez, trois vieux papis sous un platane, les deux mains sur le pommeau de la canne. Le seul pipi, c'était le dédé. Oui, les deux pépères, c'était l'Arthur. L'Arthur et le prospère. Oh yeah.